Bonjour, vous êtes sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et c'est Clap. Clap, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité cinématographique des écrans manceaux avec autour des micros Pierre Barry.
Bonjour.
Bonjour Pierre et Michel Lafon. Petite semaine cinématographique, seulement 6 nouveautés sur les écrans manceaux. Étonnant parce qu'on est en plein dans les vacances de Toussaint et en général c'était vacances assez propices aux sorties cinématographiques, mais bon, c'est comme ça. Donc, on va parler de Plan de chat, de La conspiration du Caire, de La proie du diable, Méduse, L'école est finie, Mon pays imaginaire, oui, 6, simplement.
C'est à nous, l'école voilà. Est à nous.
L'école est... Qu'est-ce que j'ai dit ? L'école est finie ?
Ah, oui, non, c'est... mais c'est pas chez
nous.
Là.
Mais non, c'est absolument, oui, l'école est à nous, absolument, oui, c'est pas chez là, non, on est bien d'accord. Pour la programmation musicale, eh bien, un titre dans chacun des films. On va commencer par un titre qu'on entend justement dans la fin de L'école est à nous. Oui, L'école est à nous. Et ça s'appelle Hope et c'est Arlo Parks. Il me semble que c'est le titre qu'on entend sur le générique de fin du
oui,
film.
Oui, tout à fait. Oui.
Voilà. Et eh bien, c'est parti sur Radio Alpa 107.3 FM. Le Mans.
To talk the pleasure back into being alive, reminiscing about the apricots and blunts on Peckham Rye. Won't call her friends, 'cause she's ashamed of being locked into bed.
Eh bien, c'était Hope, Arlo Parks, c'est sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans, et c'est un titre qu'on entend dans le film L'école est à nous. Et non pas
à la fin, oui.
Eh oui, à la fin, absolument. On entendait aussi un titre de Gorillaz, mais je ne sais pas pourquoi, je l'ai raté dans mes enregistrements. Donc, c'est... tant pis. Voilà, on commence notre semaine cinématographique avec Plancha. Plancha, c'est un film de Éric Lavenne et on peut le voir au Méga CGR, au Pathé Quinconce et au Colisée. Éric Lavenne est un réalisateur scénariste né en 62. Il a commencé en 2006 avec un long métrage qui s'appelait Poltergeist, qui n'est pas formidable d'ailleurs, avec Julie Depardieu et Clovis Cornillac. 2008, ça c'était beaucoup mieux. Incognito avec Benabar et Franck Dubosc. 2010, Protéger et servir, Cadmérade et Clovis Cornillac. Là non plus, pas formidable. 2011, Bienvenue à bord, Franck Dubosc, Valérie Lemercier. 2014, Barbecue avec Franck Dubosc et Lambert Wilson. Franck Dubosc, Lambert Wilson, on les retrouve dans, bien entendu, Plancha, puisque Plancha, c'est la suite de Barbecue. 2016, Retour chez ma mère avec Josiane Balasco, Alexandra Lamy, Mathilde Seigné. 2017, L'embarras du choix avec Alexandra Lamy, Arnaud Ducré. 2019, Chamboule tout avec Alexandra Lamy, José Garcia, Michael Youn. 2021, Un tour chez ma fille, qui était la suite de Retour chez ma mère. Et donc, on retrouve Josiane Balasco, Mathilde Seigné dans ce film-là. Voilà, donc, vous voyez, Éric Lavenne, il est spécialiste, on peut dire comme ça, de la comédie à la française. Je ne sais pas si c'est un compliment qu'on peut faire. Voilà ce qu'en pense la presse. Mais d'abord, le synopsis. 8 ans ont passé pour les personnages de Barbecue. Cette année, ils se réjouissaient de fêter les 50 ans d'Yves. Ce devait être en Grèce. Et ce sera finalement dans le manoir familial d'Yves en Bretagne. Vieille pierre, lande fascinante, plage de sable fin et fest-noz endiablé. Tout y est, mais sous la pluie, cette météo tempétueuse va mettre les nerfs du groupe d'amis à rude épreuve. Et surtout, l'anniversaire d'Yves va être l'occasion de révélations inattendues. Autant le dire, la revue de presse, elle est assez réduite et elle n'est pas très très élogieuse, c'est le moins qu'on puisse dire. Le Parisien, cette plancha se grignote, mais les chips ne sont pas pimentés et la suite ressemble un peu trop à des restes, à peine réchauffés. Mmh. Télé 7 jours, Julien Barcillon, le bémol de ses retrouvailles que l'on espérait plus festives, un scénario bien trop light, voire ronronnant. Et on termine avec Télérama. Ce n'est pas avec ce genre de comédie paresseuse que le cinéma français trouvera une planche de salut. Voilà, ça s'appelle Plancha. On peut voir le film au Méga CGR, au Pathé Quinconce et au Colisée. C'est un film choral, c'est un film de potes. On est en terrain connu avec cette suite de Barbecue où on retrouve donc les mêmes personnages. 5 amis d'enfance, plus leurs compagnes respectives, dont certaines qui sont nouvelles parce qu'il y a eu des séparations. Voilà, le temps a passé. Ils ont connu des hauts et des bas dans leur vie professionnelle et sentimentale. Ils se retrouvent à l'occasion de l'anniversaire des 50 ans de Yves dans sa maison familiale en Bretagne, suite à un contretemps, tout simplement. Il devait partir en Grèce et puis le vol a été annulé. Enfin bon, peu importe. Tantôt drôle, les vacheries échangées, les jalousies, les fiertés mal placées, les gaffes. Tantôt émouvant, la découverte d'embarrassants secrets de familles cachées. Ben, si c'est des secrets, ils sont forcément cachés, hein, bien sûr. Le film navigue entre ces différentes émotions. C'est un film donc sur les questions que peuvent se poser les quinquas au moment de faire un premier bilan de leur vie, leurs réussites, leurs échecs, leurs petites lâchetés. Et au milieu de ça, leurs femmes qui sont plus raisonnables, plus matures souvent. C'est un film agréable, au ton doux-amer. Alors certes, un casting excellent, bien entendu, mais un scénario... assez simpliste, hein, pas exceptionnel, quelques facilités, pas de vulgarité malgré tout. On est dans un terrain parfaitement balisé, c'est du cinéma sympathique, pas dérangeant, c'est en roue libre. On passe un bon moment, mais il ne faut pas non plus en demander davantage parce que c'est quand même du cinéma bien pépère. C'est parfait pour un prime time télé, pour une chaîne généraliste, hein, dimanche soir, voilà, vers 21h, 21h15 maintenant, puis ça commence de plus en plus tard. Ben voilà quoi, bon, ça se laisse regarder, mais bon.
Bon, c'est les vacances. Hein.
Ouais, ouais, franchement, il y a nettement mieux.
Il y a mieux, oui.
L'Innocent, par exemple, est bien mieux dans le genre comédie française. Voilà, Plancha, donc Méga CGR, Pathé Quinconce et Colisée. La conspiration du Caire, là, cette fois-ci, c'est uniquement au cinéma Les Cinéastes. Et cette conspiration du Caire, eh bien, elle est, ma foi, plutôt bien traitée, puisqu'elle a droit à, je crois, je vérifie, 2 séances par jour pour ce film. C'est un film de Tariq Saleh. Tariq Saleh, c'est un réalisateur, scénariste, producteur, alors je ne sais pas, suédo-égyptien, d'origine égyptienne, mais il est persona non grata en Égypte, donc il a la nationalité suédoise. Il est né en 72. À son actif, une petite poignée de films. En 2009, Métropia, qui me semble inédit en France. 2014, Tommy, envoyé directement en VOD. 2014, The Red Circle, là aussi, il me semble inédit. Par contre, en 2017, et ça, je l'ai vu, et il est passé au cinéaste, Le Caire Confidentiel, très bon film, d'ailleurs. 2022, The Contractor, pour Amazon Prime, avec Chris Pine, Ben Foster, et puis il a aussi réalisé des épisodes de séries télé, ce brave Tariq Saleh. La conspiration du Caire, ça dure 1h59, autant dire 2h. Adam, simple fils de pêcheur, intègre la prestigieuse université Al-Azhar du Caire, épicentre du pouvoir de l'islam sunnite. Le jour de la rentrée, le grand imam à la tête de l'institution meurt soudainement. Adam se retrouve alors à son insu au cœur d'une lutte de pouvoir implacable entre les élites religieuses et politiques du pays. Grosso modo, la presse a beaucoup apprécié, mais pas forcément tout le monde. Michael Mélinard dans L'Humanité parle d'un thriller brillant. La rédaction du Parisien écrit au cordeau, débordant d'images somptueuses et spectaculaires, étouffant et enivrant. Formidablement interprété, le film Tariq Saleh, déjà réalisateur de l'incroyable Le Caire Confidentiel, scotche le spectateur à son fauteuil. Ouest France, Gilles Kerdreux, La conspiration du Caire épate par ses qualités de mise en scène. L'Obs, Jérôme Garcin, persona non grata en Égypte, Tariq Saleh a dû tourner en Turquie. Ce film haletant qui se déroule au Caire et réussit la prouesse de dénoncer à la fois des politiques corrompues et des religieux trompeurs, des sicaires et des tartuffes. Eric Nauve dans Le Figaro parle d'un thriller passionnant et parfaitement maîtrisé. On reste dans le même ordre d'idées avec Sandra Onada dans Libération. Suivant un étudiant novice emporté par une intrigue politico-religieuse, Tariq Saleh signe un thriller intemporel et impressionnant. Stéphanie Belpech, dans le journal du dimanche, ce thriller politique raconte la perte de l'innocence et des illusions d'un jeune garçon dans une institution qui broie les plus faibles, sublimée par une mise en scène très ambitieuse au service d'un sujet passionnant et méconnu. Télérama, Samuel Douer, un thriller virtuose, métaphore du régime d'Al-Sisi. Al-Sisi, c'est le président de la République égyptienne. Vincent Maloza, dans Cahiers du cinéma, cette efficacité d'écriture et de découpage, pour redoutable qu'elle soit, durant la première partie, finit par virer à une forme de simplisme. Thomas Borès, dans Première, Tariq Saleh a de son propre aveu envisagé ce thriller d'espionnage comme un film de prison classique. Oui, bon. Belle idée qu'il ne convertit qu'à moitié. La faute à un scénario. Le prix cannois reste un mystère, oui, parce que le film a eu le prix du scénario à Cannes. Usant de trop grosses ficelles et certaines figures imposées pour pimenter un récit qui n'en avait pourtant pas besoin. Celui qui n'a vraiment pas aimé, c'est Jean-Baptiste Morin dans Les Inrecuptibles. Hélas, la déception fut à la hauteur des ambitions affichées. Film extrêmement bavard et mou. La conspiration du Caire ressasse tous les codes des films policiers sur l'infiltration, filature, prise de contact dans des endroits improbables, coup fourré, sans rien lui apporter de neuf, et devient très vite rasoir à force de compiler les clichés. Voilà, donc ça s'appelle La conspiration du Caire. Ça dure à peu près 2 heures. C'est proposé par les cinéastes. Et j'ai vu cette conspiration du Caire. Alors, nul doute que le public égyptien, s'il pouvait voir le film, l'apprécierait à sa juste valeur, mais c'est peu probable qu'il puisse voir le film. Mmh. Voilà. Alors là, tel qu'il est, et malgré toutes ses qualités, moi, je ne peux pas dire que je me suis senti franchement concerné. Et les questions théologiques sur l'islam me sont largement passées au-dessus de mes capacités. Je trouve que les critiques sont quand même un petit peu hypocrites qui essaient de faire croire qu'ils ont saisi toutes les subtilités entre les différents protagonistes religieux. Bon, pourquoi pas, mais j'y crois pas du tout. Enfin, peu importe. Mais on peut voir le film comme, ce qu'il est d'ailleurs, hein, un thriller d'infiltration et une certaine forme d'espionnage avec cet Adam, qui est le fils d'un modeste pêcheur, qui est admis à la prestigieuse université islamique d'Al-Azhar au Caire. C'est un petit peu comme si un fils de paysan français ou de pêcheur français était admis à Polytechnique, un petit peu. C'est,
ou, Centrale, ou à la Sorbonne. Ou...
Mais non, la Sorbonne, non. C'est pas difficile d'y être admis. C'est les grandes écoles, là, plutôt, hein, le Normal Sud, des choses comme ça.
D'accord.
Choc de la découverte pour lui de la grande ville et de cet univers si particulier où très vite... Suite au décès du grand imam de l'université, le grand imam de l'université, c'est un petit peu le pape des sunnites, hein, toute proportion gardée. Hein. Et bien donc, ce brave Adam va être amené à collaborer avec la sûreté d'État, qui a besoin d'un infiltré pour observer les luttes de pouvoir et influer sur le choix du nouveau grand imam, afin qu'il soit à la botte du pouvoir politique. Alors, comme dans n'importe quel thriller de ce genre, eh bien, ça se multiplie les coups tordus, les doubles jeux, l'infiltration, la manipulation des uns et des autres. Alors, c'est sûrement passionnant pour quelqu'un qui connaît vraiment les arcanes et les subtilités du système égyptien. Là, on regarde, mais franchement, on ne saisit pas tous les détails, même si les enjeux généraux sont clairs, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais dans le détail, on est quand même un petit peu perdu. C'est un film qui est clairement un pamphlet sur l'Égypte, hein, son pouvoir politique, mais pas que le pouvoir politique, sur ses religieux également, sa corruption. Alors, ce n'est pas une corruption tellement au niveau de l'argent, c'est une corruption morale, ses hypocrisies, son hypocrisie, sa violence également. On ne s'embarrasse pas beaucoup pour zigouiller ceux qui vous déplaisent ou les mettre en prison sans motif vraiment valable. Donc, tout ça, c'est vu à travers le regard d'un jeune garçon pris dans une histoire qui le dépasse, où il est le jouet de lutte d'influence, sans pitié, et où il perdra ses illusions, s'il en avait, en arrivant dans cette université. Donc, c'est un thriller original par les thèmes abordés, mais où on se sent un petit peu étranger au vu des enjeux qui, franchement, la politique égyptienne, ce qui s'y passe, c'est pas vraiment, vraiment quotidien des Français et de leurs préoccupations. Voilà. Ça s'appelle donc « La conspiration du Caire » et c'est un film qu'on peut voir au cinéaste, 2 heures pour le film et 2 séances par jour. Voilà. Petite pause musicale. Cette fois-ci, on va écouter Mort Schumann, oui, Sorrow. Ah. On entend 20 secondes de Sorrow dans Plan de chasse et à l'autoradio. J'ai réussi à reconnaître, parce que c'est un peu mon époque, Mort Schumann. Donc, Sorrow, Mort Schumann, Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. On entend un petit peu ça donc, dans Plan de chasse. Et voilà.
Sorrow since you left me. Sorrow, sorrow in my heart. I just can't believe it's over. I never could have dreamed that we would part. Sorrow, sorrow in the morning. Sorrow late at night, like a ship without a sail, that's how I am without your arms to hold. Do you remember those happy days? The happy days that we shared. I just had to look at you, and I knew that you cared. I thought I would spend those happy days. There's only sorrow, sorrow all around me. Sorrow, sorrow through and through. If I live 100 lifetimes, I'll never realize that I am losing you. Do you remember the happy days? The happy days that we shared. I just had to look at you and I knew that you cared. I thought I would spend those happy days loving you my whole life through. There was such happiness then, and now there's only sorrow. Sorrow.
Sorrow, Mort Schumann, on entend ce titre très très peu, hein, quelques secondes dans le film Plancha. Sinon dans Plancha on entend des musiques de folklore breton, je ne sais pas si on doit dire folklore, peut-être c'est pas un mot, c'est peut-être trop péjoratif, je ne sais pas.
Non.
Mais donc parce qu'il y a un fest-noz à la fin du film et on entend donc des classiques de la musique bretonne, voilà. Donc je ne sais pas relever parce que je ne suis pas du tout spécialiste de la chose. Mais bon, voilà. Donc La Proie du Diable, nouveau film à l'affiche cette semaine au Pathé Quinconce et au Méga CGR. La Proie du Diable, c'est un film de Daniel Stamm. Daniel Stamm, c'est un réalisateur scénariste allemand, né en 1976. Il a son actif en 2010, Le Dernier Exorcisme. Visiblement, c'est une spécialité chez lui, puisque là encore, La Proie du Diable, ça parle de ça. En 2014, 13 Sins, donc 13 Sins, 13 péchés, en VOD. Et puis, il a aussi à son actif des épisodes de séries télévisées. Le film dure 1h33. Il est interdit au moins de 12 ans, selon les archives du Vatican. Les cas de possession démoniaque ont considérablement augmenté ces dernières années. Pour y faire face, l'Église catholique a secrètement rouvert les écoles d'exorcisme. Sur ce champ de bataille spirituel, Sœur Anne, une jeune nonne, se distingue comme une combattante prometteuse. Bien qu'il soit interdit aux religieuses de pratiquer des exorcismes, un professeur détecte chez elle ce don particulier et accepte de l'initier. Mais son âme est en danger car les forces maléfiques qu'elle combat sont mystérieusement liées à son passé traumatique. Le diable l'a choisi et il veut entrer. Ouais. L'écran fantastique Gilles Penceau. Une nouvelle exploration d'un thème connu sur lequel Daniel Stamm parvient à poser un regard neuf en l'inscrivant dans un contexte réaliste très documenté. François Forestier, Lops, Daniel Stamm, réalisateur allemand de série, a saisi avec talent les codes du genre et s'en donne à cœur joie. Âme sensible s'abstenir, la parano satanique est contagieuse. Cécile Murie-Télérama, en mêlant étroitement présence démoniaque et traumatisme divers, où le sujet possédé est surtout hanté par ses drames personnels, le récit prend une dimension humaine inattendue. Épouvante et thérapie se marient ainsi dans un thriller un peu plus malin que d'habitude. Oui, jeu de mots, un peu plus malin. Voilà. Le Parisien, le réalisateur allemand Daniel Stamm fait tourner son histoire d'amour, son histoire autour d'une femme, Me Too étant passée par là. Mais cette manœuvre fait long feu. L'actrice Jacqueline Byers, quasi inconnue, se révélant particulièrement peu crédible. Heureusement, les scènes d'exorcisme s'avèrent correctement agencées, surtout la première, largement plus spectaculaire que le final. Cédric Page dans West France parle d'un film d'horreur très académique. Frédéric Fuber dans Première, la mise en place du film est séduisante et le temps d'une première scène de désenvoûtement plutôt réussie, faisant un usage ingénieux de la chevelure d'une petite fille démoniaque, on croit qu'on va s'amuser un peu. Mais les péripéties qui suivent sont totalement expédiées, filmées sans entrain par des gens manifestement pressés de rentrer chez eux. Tu n'es pas...
C'est pas mon genre de film, hein, bon, tu le sais.
Oui, oui, je sais. Moi, j'ai déjà vu plein de films d'histoire d'exorcisme. Je ne vois pas ce que ça pourrait m'apporter de nouveau d'aller voir cette Proie du Diable. Mais bon, c'est de circonstance, puisque Halloween approche.
Oui.
Donc, c'est possible de voir La Proie du Diable au Pathé Quinconce et Oméga CGR. En revanche, si vous voulez voir Méduse, cette fois-ci, c'est uniquement au Colisée. Et attention, il n'y a généralement qu'une ou deux séances par jour pour ce film de Sophie Lévy, réalisatrice, scénariste et monteuse, dont c'est le premier long-métrage. Ça dure 1h26. Romane rentre tard chez elle en compagnie de Guillaume, dont elle tombe rapidement amoureuse. Le lendemain matin, Guillaume découvre une fille dans le salon. C'est Clémence, la sœur de Romane, restée hémiplégique et privée de la parole des suites d'un accident. Guillaume se sent alors investi d'une mission, redonner corps et vie à Clémence. Alors, Samuel Douer dans Télérama parle d'un envoûtant huis clos. Adrien Gombeau dans Les Échos, bien construit malgré quelques maladresses, Méduse est portée par une prestation saisissante d'Anna Maria Bartolomei, un premier film érudit et prometteur. L'Obs, le film n'évite pas la prétention, mais il doit beaucoup au jeu de Anna Maria Bartolomei, princesse soudain réveillée à la fragilité bouleversante. Léo Jimmy Batista dans Libération, si le premier film de Sophie Lévy semble hésiter entre plusieurs styles, il trouve sa constance dans une belle ambiance de tension mélancolique. West France, un film au scénario trop lisible, mais servi par un épatant trio de comédiens. Alors, ils vont citer les autres, hein, puisqu'il y a donc Anna Maria Bartolomei, mais aussi Roxane Mesquida et Arnaud Valois. Première, Sophie Lévy aime ses personnages, elle ne les juge pas, ils ne sont ni bons ni mauvais, juste blessés. Elle soigne également l'esthétique de sa mise en scène, mais son film, pourtant, ne tient pas à la distance. Alors, je suis allé voir Méduse, et je ne peux pas dire que j'ai extrêmement apprécié. C'est un film qui est même une sorte de caricature de premier film d'auteur français. Hein. Trois personnages enfermés dans une maison et une intrigue qui tient sur le fameux ticket de bus plié en quatre. Voilà. Bref, c'est une histoire de triangle amoureux revisité. Elles sont deux sœurs, donc Romane et Clémence. L'une muette et à mobilité réduite, qui vit dans une très belle maison. En fait, cette maison appartient à leur grand-mère, mais la grand-mère est placée en EHPAD, donc elles en profitent. Un soir, Romane ramène un beau garçon, un pompier. Elle en tombe amoureuse et lui s'installe avec l'idée d'améliorer la santé de Clémence, en tout bien tout honneur, car il est lui aussi amoureux de Roxane. Complicité, jalousie, jeu pervers, il y a un petit peu de tout ça dans la relation des deux sœurs. C'est filmé de façon chichiteuse, ça multiplie les allusions à la mythologie à travers des ouvrages d'art, des sculptures, les actrices sont photogéniques, c'est parfaitement vain et dépourvu du moindre intérêt, si ce n'est la capacité à créer une atmosphère trouble, ça je veux bien le reconnaître. Bref, c'est à recommander à des gens que vous n'aimez pas, hein, comme ça vous êtes sûr qu'ils vont bien s'ennuyer pendant une heure et demie, hein, on s'attend quand même à mieux, hein, et le film a pourtant recueilli plein de prix dans des festivals.
Bon, ah bon,
des festivals bis, hein, un petit peu. Hein, ce n'est pas les grands festivals, ce n'est pas Cannes, Venise. Hein, mais bon, voilà, bon, je ne sais pas ce qui a pu plaire pour que le film ait autant de prix. Mais bon, moi, je vous dis, c'est la caricature absolue du premier film d'auteur français.
Ah, hein, oui. C'est-à-dire. Une trilogie.
Trois personnages dans une maison, quoi. Voilà, et puis ça discute. Voilà. Bon, bref. Ça s'appelle Méduse, et je n'ai pas du tout aimé. Franchement, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un film d'auteurs français qui soient aussi banal, aussi bon, voilà, aussi
mauvais.
Bien, allez, ben justement dans Méduse, on entend ce titre, c'est Bert's Apple Crumble, le crumble aux pommes de Bert, et c'est The Quick qui interprète cette chanson sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. Thank you. Bert's Apple Crumble, The Quick, eh ben, c'est un titre qu'on entend dans le film Méduse. L'école est à nous. L'école est à nous, c'est le titre de ce film de Alexandre Castagnetti qu'on peut voir au Pâté Quinconce et Oméga CGR. Donc, Alexandre Castagnetti, réalisateur scénariste, né en 75. En 2004, premier long métrage, L'Incruste, co-réalisé avec Corentin Julius. L'Incruste, sous-titre, Fallait pas le laisser entrer, avec Frédéric Diffental et Titoff. 2013, Le Grimoire d'Arcandias, co-réalisé avec Julien Simonet. Il y avait Christian Clavier dans le film. 2013, ah, c'était pas mal ça. Amour et Turbulence, avec Nicolas Bedos et Ludivine Sagnier. 2015, Tamara, avec Héloïse Martin et Sylvie Testu. 2017, Tamara volume 2, avec Héloïse Martin et le fameux et très beau Ryan Bensetti. 2017, La Colle, avec Thomas VDB. Et 2019, Itinéraire d'une maman braqueuse, directement sur la plateforme Salto. Et puis, il est aussi dans les réalisateurs d'une petite vignette qui s'appelait La Chanson du Dimanche, qui était une petite vignette qui passait sur Internet et peut-être même qui a été diffusée à un moment peut-être sur Canal+. Alors, L'école est à nous, ça dure 1h48. Virginie Thévenot, une prof de maths un peu spéciale, profite d'une grève générale dans un collège pour tenter une expérience hors du commun avec un petit groupe d'élèves. Elle prend un pari, leur laisser faire ce qu'ils veulent, une étincelle qui va enflammer les esprits des ados, provoquer une petite révolution au sein du collège et bouleverser leur vie à tous. Alors, on a toute la gamme des appréciations pour L'école est à nous. On commence par Caroline Nivier dans 20 minutes. Le réalisateur de Tamara confirme ici qu'il s'est capté et restitué la force vive de la jeunesse. Le monde, cette dialectique de l'idéalisme et du réalisme, de l'enchantement et de la désillusion, de la comédie du drame, droit hérité de Frank Capra, ouais, carrément, Alexandre Castagnetti la distribue avec talent. C'est elle qui rend son film si plaisant et en même temps propice à la réflexion. Xavier Le Herpeur dans l'Obs, souvent drôle et formidablement interprété, mention spéciale à Sarah Zucco, c'est elle qui joue la prof de maths, le film de l'auteur de La Colle vise juste. Corinne Renoux-Nativelle-Lacroix, un vivifiant plaidoyer pour une école apte à accompagner les choix et épanouissements individuels portés par l'interprétation de Sarah Zucco, dont la spontanéité fait écho aux interprétations de ses adolescents en quête d'eux-mêmes. Baptiste Thion, Le Journal du Dimanche, si cette comédie scolaire, dans tous les sens du terme, coche toutes les cases du genre, son message sur l'épanouissement personnel au détriment du formatage peut séduire, d'autant qu'elle est sympathique et portée par de bons comédiens, Sarah Zucco en tête. La rédaction de West France, un film attachant, mais ses belles intentions finissent par se perdre dans un trop-plein de sensiblerie. Thierry Chaise en première, solidement interprété, rythmé, L'école est à nous perd cependant de son impact à cause d'un trop-plein de bonnes intentions. Le Figaro, laissons à l'enfant roi le droit de révolutionner l'éducation nationale tellement arriérée. Tel est le message simpliste de ce film bourré de clichés et de certitudes pseudo-bien-pensantes. Je suis pas loin de penser comme le critique du Figaro. Donc, encore un film sur l'école, avec les mêmes qualités et les mêmes défauts de beaucoup de ses prédécesseurs. Un mélange de justesse sur certains aspects et de démagogie et d'utopie sur d'autres. On y voit donc l'arrivée d'une jeune prof de maths remplaçante dans un collège de banlieue. Alors là déjà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais une agrégée remplaçante, ça n'existe pas. Les agrégés, ils ont forcément
des
postes.
C'est vrai, elle est agrégée, oui.
Elle est agrégée, oui. Et les agrégés, on ne les balance pas dans des postes comme ça.
Bah, non.
Mais bon, passons. C'est comme ça. Donc, à l'arrivée d'une jeune prof de maths remplaçante dans un collège de banlieue à la suite d'une grève du personnel enseignant, ça c'est tout à fait plausible. Elle accepte d'assurer une permanence avec un collègue de techno, pour les quelques élèves qui viennent alors au collège ou qui veulent bien venir au collège plutôt que rester chez eux. Ces élèves, c'est une sorte de panel de tous les clichés habituels, tant sur la diversité ethnique que sociale que physique. Hein, là, c'est, ça coche toutes les cases. Et cette prof de maths, elle va faire preuve d'audace en prenant une sorte d'autogestion des élèves, encourageant à ne faire que ce qui leur plaît, sans la moindre contrainte. Des talents vont alors se révéler, car ces nouvelles méthodes vont forcément permettre aux élèves de s'épanouir, c'est ce qu'il dit. Hein. Mais ces nouvelles méthodes dérangent l'administration, les parents d'élèves, des collègues, même si donc les élèves semblent apprécier. Alors bon, c'est truffé d'erreurs factuelles, mais bon, c'est pas grave. La pure vérité des faits semble le cadet des soucis des auteurs. Bon, ce qui compte le plus manifestement pour eux, ce sont les valeurs de générosité, de solidarité qui sont prônées ici et comment leur reprocher et comment être contre. Sarah Zucco est très, très touchante en prof, pleine de fragilité, de bonne volonté, aux idées nouvelles, aux idées iconoclastes. Les jeunes sont pleins de vitalité, d'enthousiasme. C'est plein de bons sentiments, de bisounourserie par rapport à la réalité très, très, très édulcorée, croyez-moi. Comme d'habitude dans ce genre de film, c'est plein d'excellentes idées dont on s'étonne que personne ne les reprenne, en accusant bien évidemment le conformisme général. Donc, il n'y a pas de notes, évidemment. Le bien-être avant tout, pas de programme, zéro contrainte. Tout ce qui est tenté dans les collèges expérimentaux et qui, dans la réalité, se casse la gueule, parce que les collèges expérimentaux ferment tous les uns après les autres, justement, hein, parce que justement, les élèves, ils ne sont pas forcément aussi bienveillants que dans ce film-là. Donc, si on en oublie le fond, c'est plaisant, mais surtout, si on en oublie le fond.
Ben moi, je suis très gentil.
Ah, ben c'est bien.
Oui, j'ai beaucoup aimé.
Tant mieux.
Une comédie légère, donc, enthousiasmante, voire même émouvante. Ben oui, je me suis même surpris à laisser couler une petite larme à la fin du film. Je ne vais pas vous dire pourquoi. Je vais vous donner un indice, c'est à propos d'une des élèves. Un film quelque peu utopiste, il faut bien le dire quand même, c'est une fiction, ne l'oublions pas. Jean-Pierre Darroussin, toujours excellent.
Ah oui, là c'est vrai, il est très juste.
Toujours excellent, ouais, dans un rôle très sérieux cette fois, celui du principal du collège.
Ah, il est très très juste là-dessus.
Et puis que dire de Sarah, ben, je dis Succo, je sais pas pourquoi, mais
bah oui, peut-être.
Elle est française, hein, donc
bah
on peut dire Succo. Tout simplement merveilleuse, cette Sarah en prof de maths, libérée des contraintes du programme imposé par le ministère de l'Éducation, une prof révolutionnaire. Coup de chapeau aussi aux ados, qui jouent leur rôle à fond dans ce collège chamboulé par une grève générale des profs. Vraiment, j'ai passé un bon moment, et c'est un film que je vous conseille pour cette semaine.
Bon, eh bien...
Oui, je suis gentil.
Voilà, non mais c'est bien, non,
oui.
Bien sûr. Bon, dernier film à l'affiche cette semaine, c'est un documentaire, Mon pays imaginaire, de Patricio Guzmán. Patricio Guzmán, c'est un acteur, mais surtout un réalisateur scénariste chilien, né en 41. En 73, donc vous voyez, ça date un petit peu, il avait réalisé Primer Año, avec Françoise Arnoul et François Perrier. Ben oui, des Français. De 1974, c'est n'importe quoi. La bataille du Chili, un documentaire. 2001, Le Capinochet, un documentaire. 2004, Salvador Allende, un documentaire. 2010, Nostalgie de la lumière, documentaire. 2015, Le bouton de nacre, documentaire. 2019, La cordillère des songes, documentaire. Et puis aussi des courts-métrages et d'autres documentaires inédits. Voilà la filmographie de Patricio Guzmán, dont vous voyez essentiellement un documentariste. Son film dure 1h23. Il est projeté au cinéaste avec une séance par jour. Et donc, octobre 2019, une révolution inattendue, une explosion sociale. 1,5 million de personnes ont manifesté dans les rues de Santiago pour plus de démocratie, une vie plus digne, une meilleure éducation, un meilleur système de santé et une nouvelle constitution. Le Chili avait retrouvé là sa mémoire. L'événement que j'attendais depuis mes luttes étudiantes de 1973 se concrétisait enfin. Ça, c'est ce que dit Patricio Guzmán. Thierry Chaise dans West France, Patricio Guzmán fait dialoguer passé et présent dans un geste de cinéma passionné. Marie-Josée Sirac dans L'Humanité. En 72, Patricio Guzmán avait filmé la bataille du Chili. En octobre 2019, un mouvement de contestation sans précédent secoue le pays. De ce matériau, le réalisateur signe une fresque poétique et politique sur un pays qui retrouve sa mémoire. Céline Rouden dans La Croix, Patricio Guzmán signe un très beau documentaire aux images et à la bande son soignée qui vaut autant par le témoignage d'une histoire en marche que par les résonances qu'il fait vibrer chez le cinéaste entre passé et présent. Olivier de Bruyne dans Les Échos, témoin infatigable des évolutions de la société chilienne, Guzmán évoque une nouvelle fois sa terre natale dans Mon pays imaginaire. Ici, un documentaire engagé dont la concision sert au mieux la puissance du propos. Télérama, à travers les manifestations de 2019 au Chili, Patricio Guzmán montre la soif de démocratie de son pays avec force et poésie. Vincent Maloza dans Cahiers du cinéma, rythmé par la parole de différents acteurs du soulèvement, scrutant chaque étape qui a mené à l'écriture de la nouvelle constitution, le film touche d'autant plus que l'on sait désormais que sa bataille fut soldée, comme la première, par son lot de désillusions et par cet aveu silencieux qui semble traverser le film comme un principe de fatalité et de mélancolie. À l'instar de la plage sous les pavés, le pays d'idéal et de songes rêvé par Guzmán restera imaginaire. Luc Chessel, Libération, si le film est précieux d'un point de vue informatif, introduisant son public aux grandes lignes du déroulé du mouvement, Mon pays imaginaire semble en rester à la surface des événements, comme à celle des images, survolant l'histoire récente, comme ses plans de drone survolant Santiago. Voilà, pas vu Mon pays imaginaire de Patricio Guzmán, proposé par les cinéastes. Allez, une toute petite pause musicale avec notre générique, on va l'écouter. Et on revient sur les films à l'affiche la semaine prochaine et les avant-premières. Voilà, un petit peu. Alors, parlons donc des films à l'affiche la semaine prochaine. Vous savez forcément que mardi, c'est le 1er novembre et que c'est férié. Mmh. Eh bien, les cinémas en profitent pour sortir un petit peu en avant-première des films, puisque normalement, les films sortent le mercredi. Alors, il y a trois films qui sortent mercredi. Il y a Mascarade de Nicolas Bedos. J'ai vu, hein, c'est un bon film, un bon thriller avec Pierre Niney, Isabelle Adjani, François Cluzet, Marine Wacht. Magnifique dans le film. Mascarade donc sort au Colisée, non pas au Colisée, si au Colisée, au Méga CGR et au Pâté Quinconce. Donc bah, c'est un jour férié, s'il ne fait pas trop beau, bah, vous pouvez aller voir, c'est un problème.
Bah non, il pleut.
Il pleut, donc ça tombe. Voilà.
Ah, c'est pas tout ça. Hein.
Amsterdam, ça aussi, ça sort au Pâté Quinconce et au Méga CGR. C'est un film de David O. Russell. Et puis il y a Close, un film de Lucas Dont. Là, c'est au cinéaste que sort ce film. Sinon, il y a une avant-première mardi aussi pour un film au Méga CGR, Cœur de Rocker. C'est avec Mathilde Seigner. C'est un film qui sortira fin décembre, je crois, juste avant le 1er janvier. Cœur de Rocker, c'est à 14h30. Et puis Halloween. Le cinéma Le Colisée fait une soirée spéciale Halloween avec deux films en avant-première. Je ne sais pas si ensuite ils sortiront le mercredi suivant, mais à 18h15, il y aura X. C'est un film épouvante horreur d'1h45 à 18h15. Et on pourra enchaîner à 20h45 par Super Z. Alors cette fois-ci, c'est un comédie épouvante horreur français avec Julien Courbet, mais pas le gars qui est sur Capital. Hein, Julien
pas
Courbet,
Zorro.
Non. Johan Libero, etc. Voilà, donc ça, c'est sûr. Les autres films à l'affiche cette fois-ci, mais à partir de mercredi, donc il y aura bien sûr Mascarade, Close Amsterdam. Il y aura probablement Vous n'aurez pas ma haine, sur les attentats du Bataclan, hein, une fois de plus. Une Europe pour Mrs. Harris, ça, je suppose, j'en suis pas sûr et certain, mais un film avec Isabelle Huppert et Lambert Wilson, c'est quand même possible. Les cinéastes proposera Le Serment de Pamphyr, c'est un film ukrainien, et puis Arka également. Voilà, on peut penser que tous ces films-là seront à l'affiche la semaine prochaine et qu'on en parlera dans Clap sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. Cette semaine, bah, Pierre vous recommande chaudement L'école est à nous, c'est ça?
Ah oui, tout à fait.
Voilà, et puis moi je vous dis, allez voir.
On peut dire un petit mot avant de se quitter sur Graines d'Image.
Absolument.
Parce que ça se poursuit, hein, on est à peine à moitié, c'est jusqu'à la fin des vacances, jusqu'à quelques jours de novembre. Alors, je rappelle les films à l'affiche. Dès 3 ans, Grosse Colère et Fantaisie, Le Tigre qui s'invita pour le thé et Super Astico. Ces films ne durent que 40 minutes pour les tout-petits. 4 ans, Yuku et la fleur de l'Himalaya. Dès 6 ans, Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse. Dès 7 ans, Le Petit Nicolas. Dès 8 ans, Les Démons d'Argile et La Revanche des Humanoïdes. Dès 10 ans, La Chance sourit à Madame Nikuko. Et enfin, dès 12 ans, Comedy Queen. Alors là, c'est un film en VO sous-titré, donc je préviens quand même les enfants, il faut lire rapidement.
Oui, alors le tarif.
Alors le tarif, 4 euros, y compris pour les adultes accompagnants. Et puis il y a des avant-premières dimanche. Hein.
Oui.
Dès 5 ans, Ernest et Célestine, c'est à 11h. Dès 7 ans, Dounia et la princesse d'Alep à 14h30. Et dès 10 ans, Interdit aux chiens et aux Italiens à 16h. Donc 3 avant-premières dimanche prochain. Et puis je voudrais finir par 2 animations intéressantes. Mercredi 2 novembre à 16h, Ciné-Danse. À partir de 3 ans, après le film Grosse Colère et Fantaisie. Et puis surtout, jeudi 3 novembre à 14h, je sais que les enfants adorent ça, il y a un escape game.
Ah oui?
Oui. Après, La Chance sourit à Madame Nikuko, c'est à partir de 10 ans. Alors là, je vous conseille de réserver parce qu'il va y avoir des amateurs. Vous appelez le 02 43 51 28 18, je rappelle. 02 43 51 28 18.
C'est le numéro du cinéaste?
C'est au cinéaste, toujours. Voilà, oui, c'est le numéro des cinéastes.
Voilà.
Et puis, sinon, pour les horaires de tous les films que j'ai cités, vous tapez lescinéastes.fr. Attention, il y a un tiret au milieu entre les et cinéastes.fr.
Voilà. Sinon, vous mettez Google.
Sinon, vous passez au cinéaste prendre le petit livret.
Voilà.
Oui.
Bien, et bien, sur ces bonnes paroles, on va vous souhaiter une excellente semaine cinématographique. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour Clap sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans.
Au revoir.